Et on va lire ensemble le chapitre 7.
Paul dit, « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Donnez-nous une place dans vos cœurs, nous n'avons fait tort à personne, nous n'avons ruiné personne, nous n'avons tiré profit de personne. » Ce n'est pas pour vous condamner que je parle de la sorte, car j'ai déjà dit que vous êtes dans nos cœurs à la vie et à la mort. J'ai une grande confiance en vous. J'ai tout sujet de me glorifier de vous. Je suis rempli de consolation. Je suis comblé de joie au milieu de toutes nos afflictions. Car depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n'eut aucun repos. Nous étions affligés de toute manière, lutte au dehors, crainte au dedans. Mais Dieu, qui console ceux qui sont abattus, nous a consolés par l'arrivée de Tite. Et non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation que Tite lui-même ressentait à votre sujet. Il nous a raconté votre ardent désir, vos larmes, votre zèle pour moi, en sorte que ma joie a été d'autant plus grande. Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas. Et si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément, je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance, car vous avez été attristé selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et voici cette même tristesse selon Dieu. Quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition! Vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire. Si donc je vous ai écrit, ce n'était ni à cause de celui qui a fait l'injure, ni à cause de celui qui l'a reçu. C'était afin que votre empressement pour nous soit manifesté parmi vous devant Dieu. C'est pourquoi nous avons été consolés. Mais outre notre consolation, nous avons été réjouis beaucoup plus encore par la joie de Tite, dont l'esprit a été tranquillisé par vous tous. Et si devant lui je me suis un peu glorifié à votre sujet, je n'en ai point eu de confusion. Mais comme nous avons toujours parlé selon la vérité, ce dont nous nous sommes glorifiés auprès de Tite s'est trouvé être aussi la vérité. Il éprouve pour vous un redoublement d'affection, souvenir de votre obéissance à tous et de l'accueil que vous lui avez réservé avec crainte et tremblement. Je me réjouis de pouvoir en toute chose me confier en vous. » Et donc, on reprend cette deuxième épître aux Corinthiens. Et au verset 8, l'apôtre Paul dit « Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas. » Quoique je vous ai attristé par ma lettre. Alors, dans un précédent culte, on avait déjà parlé d'une lettre que Paul avait envoyée. Alors, il est possible qu'il y ait eu une lettre entre la première épître et la deuxième épître aux Corinthiens, une lettre que nous n'avons pas, et que Paul aurait envoyé une lettre sévère. Mais il est possible aussi qu'en fait, il fasse référence à sa première épître, qui était quand même sévère. Elle était quand même assez... voilà. Paul avait mis le doigt sur les péchés dans l'église de Corinthe. Et donc, quelle que soit la lettre, elle est envoyée, et puis Paul attend, et il n'a pas de nouvelles. Alors il commence à cogiter. Vous savez, quand vous écrivez quelque chose à quelqu'un, puis vous attendez, il n'y a pas de réponse. Alors, et vous vous repassez la lettre. Hein. Ah oui, je lui ai dit ça, est-ce que je lui ai bien dit, c'est ce qu'a fait Paul. Il s'est posé plein de questions. Mais comment ils ont pris ma lettre? Est-ce qu'ils l'ont bien reçue? Est-ce que j'ai pas été trop dur? Qu'est-ce qui se passe? Alors, on n'en est pas encore au temps des emails où en une seconde ça part et la réponse peut venir aussi vite. En une seconde, il faut attendre des semaines parfois. Mais Tite arrive et il a de bonnes nouvelles des Corinthiens. Les frères de Corinthe ont bien pris sa lettre. Amen. Oh, quel soulagement. C'est pour ça que dans tout le passage, voilà, il exulte. Il est dans les afflictions, mais oh, il est tellement dans la joie de savoir qu'ils ont bien reçu sa lettre avec un bon cœur, une bonne attitude. Ça veut dire quoi? Si on se base sur ce que nous avons, c'est-à-dire la première épître aux Corinthiens, ça veut dire que les Corinthiens sont désolés pour avoir permis des rivalités et des jalousies en leur sein. Ils sont désolés, ils en ont pris conscience. Ils sont désolés d'avoir été charnels. Hein, il dénonce leur attitude, leur dispute, leur division. Ils sont désolés. Ils se repentent aussi d'avoir été orgueilleux, d'avoir cherché à régner les uns sur les autres. Ils se repentent aussi d'avoir permis de la débauche au sein de l'Assemblée sans rien dire. Ils ne disaient rien. Ils sont désolés de ne pas avoir jugé le mal qui était au milieu de l'Assemblée. Ils sont désolés d'avoir mis des frères devant des tribunaux d'incroyants. Hein, ils s'étaient mis devant des tribunaux, ah ben lui, ben je vais l'attaquer en justice. Là, ils prennent conscience, mais ça ne se fait pas, c'est n'importe quoi. Ils sont désolés d'avoir livré eux-mêmes leur corps à la débauche. Hein, ils parlent de se livrer à la prostituée, etc. Ils sont repentants, pour certains, d'avoir été idolâtres. Ils sont désolés d'avoir pris la scène sans respect pour le corps de Jésus-Christ, méprisant. Ils sont désolés de ne pas avoir considéré l'ensemble du corps jusqu'au plus petit. Hein, celui qui est peut-être l'orteil, on pense qu'il ne sert pas à grand-chose. Ils sont désolés d'avoir eu cette attitude. Ils sont désolés de ne pas avoir cherché l'amour. Ils sont désolés de s'être focalisés sur les dons visibles, les langues, les prophéties. Ah, il faut que ça éclate. Ils sont désolés. Ils prennent conscience, mais c'était n'importe quoi. Ils sont désolés d'avoir fait les choses sans ordre. C'était le désordre. C'était la cacophonie. Un vrai... En anglais, on dit « a mess ». Maintenant, il y a le mot qui me vient plus facilement, mais voilà, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Ils sont désolés d'avoir laissé certaines femmes prendre de l'autorité dans le culte. Ils sont désolés d'avoir été un mauvais témoignage pour l'extérieur. Ils se repentent, vraiment. Bon, ça fait une belle liste, hein. Alors Paul, quand il voit leur attitude, il dit « merci mon Dieu de voir leur cœur repentant, quelle grâce hein !» Et Tite en est la preuve. Tite lui-même était heureux, regardez, on va relire les versets 6 et 7. « Mais Dieu, qui console ceux qui sont abattus, nous a consolés par l'arrivée de Tite, et non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation que Tite lui-même ressentait à votre sujet. Il nous a raconté votre ardent désir, vos larmes, votre zèle pour moi, en sorte que ma joie était d'autant plus grande. » Donc Tite fait mention des larmes des Corinthiens et les frères ont pleuré, en prenant conscience, c'est pas juste une parole, ils ont pleuré. Ils ont pleuré sur leurs péchés à cause de leurs manquements, leurs erreurs, aussi de la peine qu'ils avaient générée chez Paul. Parce qu'il faut se souvenir, donc, on le redit presque à chaque fois, mais il y avait des gens qui s'opposaient à l'apôtre Paul. Et donc, ils commençaient à se dire, mais est-ce que ces gens-là n'ont pas raison ? Et finalement, ils ont pris Paul après pour cible aussi. Et là, ils prennent conscience, mais non, c'est pas Paul le mauvais ouvrier. Et donc, ils sont désolés. Et puis, Paul va ouvrir un sujet, c'est celui de la tristesse. Et les frères de Corinthe ont éprouvé une réelle tristesse face aux reproches que l'apôtre leur a fait. Et on peut dire qu'il y a plusieurs manières d'être attristé. Mais Paul donc va parler de deux manières différentes, ou deux tristesses différentes. Regardez avec moi, on va relire les versets 8 à 10. « Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas. Et si je m'en suis repenti, j'ai de la concurrence là, hein, c'est bien. Et quoique je m'en suis repenti, je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément. Je m'en réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristé selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. » Et là, on voit, il y a deux types de tristesse. Il y a la tristesse qui est selon Dieu, et puis il y a la tristesse du monde. Et donc, il y a une tristesse qui est bonne, parce qu'elle elle est l'effet d'un travail dans la conscience et par le Saint-Esprit. Et donc, c'est une tristesse qui est salutaire. Elle est bonne. Et puis, il y a une tristesse qui, elle, provient plutôt de notre vie dans ce monde, Et l'influence du monde et ce que ça engendre en nous, chez nous, tout ça c'est mêlé. Et cette tristesse, il dit, elle n'est pas bonne. Celle-là, elle engendre la mort. Elle produit la mort. Et pour essayer de comprendre mieux ces deux tristesses, on va regarder deux grands exemples, mais aussi plein de petits exemples à côté. D'abord, deux grands exemples qui sont en contraste l'un avec l'autre. Donc, on va regarder deux grands exemples. Il y a Pierre et Judas. Et là, vous avez deux exemples de personnes qui ont éprouvé de la tristesse, une vraie tristesse. Alors, ces deux hommes, ils font partie du cercle très restreint des 12. C'était un privilège. Ils faisaient partie des 12 apôtres. Mais ils vont avoir deux destinées complètement différentes à cause de deux tristesses différentes. Alors, on peut prendre d'abord le récit de Matthieu qui nous parle des deux. Matthieu 26, 69 à 75. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit « Toi aussi, tu étais avec Jésus, le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, disant « Je ne sais ce que tu veux dire. » Alors, pour remettre dans le contexte, Jésus donc, a été trahi par Judas. Il se retrouve dans la cour du Sanhédrin, donc du tribunal juif. Et Pierre, qui avait dit qu'il le renierait jamais, il se retrouve aussi dans la cour du Sanhédrin. Il a réussi à pénétrer. Et alors, il se tient au loin, près d'un feu. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la scène, elle est pathétique. Pathétique. Elle se passe pendant la nuit. Hein. Et regardez, donc, on reprend. Donc, il nia devant tous, disant « Je ne sais ce que tu veux dire ». Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth ». Il le nia de nouveau, avec serment « Je ne connais pas cet homme ». Peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés dirent à Pierre « Certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître ». Alors, il se mit à faire des imprécations et à jurer « Je ne connais pas cet homme ». Aussitôt, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, « Avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Et c'est une profonde tristesse qui s'abat hein, donc sur l'apôtre Pierre. Il était pourtant sûr de lui, « J'aime le Seigneur, j'aime le Seigneur. C'est impossible que je le renie. » Mais en fait, Pierre ne se connaissait pas suffisamment lui-même. Et c'est souvent ça le problème. On pense qu'on se connaît soi-même, mais on ne se connaît pas bien soi-même. En fait, personne ne se connaît réellement. Et si on peut arriver petit à petit à une connaissance de soi-même, c'est quand on prend conscience que nous sommes des pécheurs. Et que sans la grâce de Dieu, mais tout est possible. Sans la grâce de Dieu, on est faillible. On ne peut pas tenir nos engagements jusqu'au bout. On ne peut pas promettre fidélité et tenir vraiment fidélité. On a besoin de la grâce de Dieu. Quelqu'un qui n'a pas pris conscience de sa faiblesse, alors il ne se connaît pas lui-même. Et Pierre, il ne se connaissait pas vraiment lui-même. C'est pour ça qu'il a été plein de fougue en disant « Mais moi, jamais je ne te renierai, Seigneur, jamais !» Mais Jésus le connaissait, il savait déjà qu'il ne tiendrait pas dans l'épreuve. Dans l'évangile de Luc, le passage parallèle est touchant, puisque alors que Pierre vient de le renier pour la troisième fois, il est dit « Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. » Imaginez ce regard. Imaginez ce regard qui s'est posé sur lui. Connaissant Jésus, c'était certainement pas un regard dur, un regard réprobateur. Mais voilà, simplement, il a regardé. Et Pierre, qu'est-ce qui s'est passé en lui? Qu'est-ce qui s'est passé en lui? À cet instant, étant sorti, il pleura amèrement. Amèrement. Voyons maintenant le deuxième personnage. Donc c'est la suite. Matthieu 27. Et on va lire les versets 1 à 4. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords. Et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant « J'ai péché en livrant le sang innocent ». Ils répondirent « Que nous importe, cela te regarde ». Et donc ici, Judas vient de trahir Jésus et il est pris de remords. La définition des remords ou du remords, on peut lire, c'est tourment moral causé par la conscience d'avoir mal agi. Tourment moral causé par la conscience d'avoir mal agi. Et donc, Judas est profondément triste d'avoir osé livrer Jésus, l'innocent, aux Juifs. Et c'est une trahison qui pèse sur sa conscience. Si on regarde brûle pour point, on voit simplement deux hommes qui ont été infidèles à Jésus. Et deux hommes qui pleurent maintenant et qui sont tristes de ce qu'ils ont fait. Pourtant, il existe quand même une différence entre Pierre et Judas. C'est que Pierre est brisé de n'avoir pas aimé son Seigneur comme il prétendait pouvoir le faire. En réalité, il aime Jésus. Il aime vraiment Jésus. Mais sa faiblesse, la faiblesse de son cœur pécheur, l'empêche de faire le bien qu'il voudrait faire et lui fait faire le mal qu'il ne voudrait pas faire. Mais il aime quand même Jésus. Judas, lui, il est plutôt brisé par la honte qu'il a d'avoir été celui qui a trahi Jésus. C'est l'opprobre d'être cet homme qui le plonge dans le désespoir. La suite nous dit, regardez, verset 5. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, il se retira et alla se pendre. Il alla se pendre. Et c'est incroyable le contraste qu'il y a entre ces deux hommes qui sont pourtant si proches l'un de l'autre. Tous les deux ont été enseignés par Jésus. Tous les deux ont reçu toute cette sagesse. Tous les deux ont vu ces miracles. Tous les deux ont dormi à côté de Jésus. Ils étaient avec lui pendant plus de 3 ans. Ils étaient ensemble à table à la dernière Pâque. Mais tous les deux allaient aussi être attaqués par Satan. Tous les deux attaqués par Satan. Satan allait le pousser à trahir Jésus. À l'autre, Satan allait le pousser à renier Jésus. Et tous les deux sont accablés de tristesse à cause de ce qu'ils viennent de faire. Mais leur tristesse n'est pas la même. C'est pas la même tristesse. Ils sont tristes, mais l'un d'une tristesse selon Dieu et l'autre d'une tristesse du monde. Une tristesse du monde. Et à la fin de ces... Et c'est la fin, de ces deux hommes qui nous montre la nature de leur tristesse. Pierre va se repentir. La tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais. Et Judas va se pendre, car la tristesse du monde produit la mort. Elle amène à la mort. Et la grande différence entre Pierre et Judas, c'est que le premier, il aime Dieu, il aime Jésus-Christ, et le second, il s'aime lui-même, en fait. Et c'est finalement, il a livré le sang innocent, et c'est maintenant son image. Il est le mauvais, en fait. Il est le raté, le cupide. Son image est comme égratignée maintenant. Il n'arrive pas à le supporter. Comment il a pu être si méchant avec quelqu'un qui était si bon avec lui? Alors il est complètement dévasté et il préfère se suicider. Alors, il y a plusieurs points qu'on peut relever au niveau de la différence entre la tristesse selon Dieu et la tristesse du monde. D'abord, c'est que l'une nous rapproche de Dieu, tandis que l'autre nous en éloigne. La tristesse selon Dieu nous pousse à aller vers lui. On n'a pas fait ce qu'il fallait, on en a conscience, mais on se dit, il n'y a que lui en fait, il est la solution. Alors, on veut aller vers Dieu. Et c'est ce qui va se passer dans le cœur de Pierre. Pierre a pleuré, j'imagine, il a beaucoup pleuré, il pleura amèrement, mais ça a dû durer. Il a certainement pleuré encore davantage. On ne parle pas beaucoup de lui au niveau de la crucifixion. Mais imaginez, quand Jésus est mort, il a dû pleurer encore et encore et encore. Son sauveur, l'image qu'il laisse, le reniement, terrible, terrible. Mais c'est aussi lui qui va courir dès qu'on entend Jésus est ressuscité. Oh, il court toutes ses forces. Bon, il est un peu plus âgé que Jean, alors Jean va le devancer. Mais néanmoins, il court. Pas possible, Jésus est ressuscité. Et il arrive à la tombe vide. Et là, il y a comme une lueur d'espoir dans son cœur. Et on voit que sa chute Elle ne l'a pas éloigné du Seigneur. Au contraire, elle l'a rapproché parce que sa tristesse, elle était selon Dieu, elle était salutaire. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Pierre est le premier homme à qui Jésus est apparu. C'est ce qu'on lit dans 1 Corinthiens, hein, où il est dit, Paul rapporte, il dit, après la résurrection, il est apparu à Céphas. Donc d'abord à Céphas. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Et Pierre voulait s'approcher toujours de Dieu, malgré sa chute, et Dieu s'est approché de lui. Jésus, voilà, était le premier. Il s'est révélé à lui en premier, en tant qu'homme. Et si on ne va pas bien avec le Seigneur, alors il ne faut pas fuir. Il faut courir vers Jésus. Approchez-vous de lui. Il faut aller vers lui. Courir vers le Seigneur. Et c'est vrai que notre tendance humaine, hein, charnelle, elle peut être de nous isoler, de voilà, tomber dans un mutisme, dans une tristesse. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut, une tristesse qui n'est pas bonne. La solution, elle est auprès du Seigneur. Il faut aller auprès du Seigneur. Et je me souviens d'André Touche. Donc, tout le monde ne le connaît pas, mais c'est un jeune homme qui était parmi nous pendant un an ou deux et qui est maintenant missionnaire en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et c'est lui qui disait, si tu ne vas pas bien avec le Seigneur, il faut courir à la maison de Dieu, il faut courir vers Jésus. Et j'ai retenu toujours ça. Et c'est vrai, si on ne va pas bien avec le Seigneur, mais il faut courir et aller voir Jésus. C'est ça l'important. Mais la tristesse du monde, elle nous éloigne. Elle nous éloigne au contraire de Dieu. Judas se retira, est-il dit. Et là, il va s'isoler dans un coin où il n'y a personne. Et il n'a qu'une seule envie, c'est se suicider. Il n'est plus avec les apôtres. Il n'est plus avec le groupe, alors que Pierre, lui, était resté avec les apôtres. Il n'est pas non plus à Gethsémané, en larmes, en disant, mais c'est là, Seigneur, que je t'ai trahi. Pardonne-moi. Non, il n'est pas à Gethsémané. Mais il va se mettre dans un coin reculé avec une corde. Et c'est vrai que la tristesse du monde nous pousse à nous isoler, à nous couper de tout et de tous. Et il y a comme un désordre, il y a une confusion, il y a un mélange dans les sentiments tels que la honte, peut-être la colère. Colère vis-à-vis de nous, ou au contraire, colère contre les autres, ou colère contre Dieu, c'est possible. Il y a de la déception, déçu de soi. On est déçu de soi. Il y a de la dépréciation de soi-même aussi, c'est possible. On ne vaut rien, vu ce qui nous est arrivé. Et c'est certain que quand on ne va pas bien, et qu'on s'isole en plus, avec des mauvais sentiments, mauvaises pensées, bah le diable il en profite bien. Et lui, il va appuyer, hein, et il va nous enfoncer, et nous enfoncer encore plus bas, parce qu'il veut notre destruction. La tristesse du monde produit la mort. La tristesse du monde produit la mort. Et la mort, vous savez, la mort c'est une séparation. C'est toujours une séparation, c'est pas en... séparation du corps, de l'âme, séparation de Dieu pour l'éternité. Et la tristesse du monde, elle produit une séparation. Alors que la tristesse, selon Dieu, elle nous pousse à venir à lui, ou à revenir à lui, de tout notre cœur. Ensuite, il y a une différence entre ces deux tristesses, c'est que l'une produit des remords sans action, tandis que l'autre produit une repentance active. C'est vraiment différent. Des remords sans action. Ça, c'est le cas de Judas. Après avoir compris son erreur, Judas aurait pu essayer d'empêcher la crucifixion. Ben voilà, ça y est, maintenant, les dés sont jetés, il ne peut plus retenir les religieux juifs. Mais il aurait pu essayer quand même. Je me suis toujours imaginé, c'est pas la réalité, mais je me dis, ça aurait pu être possible. Je me suis imaginé Judas dans la foule, avec Ponce Pilate, et qui dit « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus, qu'on appelle Christ ?» Et tous les religieux « Relâche Barabbas !» Et Judas « Non, relâche Jésus, s'il te plaît, relâche Jésus !» S'il avait fait ça, on le compterait pour notre frère. Mais il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça. Ça aurait été un signe fort. Un signe d'un changement, d'une repentance active. Mais Judas ne se repent pas des conséquences de ses actes. Il regrette, c'est vrai, des remords sans action. Tandis que Pierre, lui, va vraiment se repentir. il ne va pas pouvoir réparer le triple reniement qu'il vient de faire. Ça y est, c'est trop tard. C'est sorti de sa bouche. Mais sa vie ne s'arrête pas là, après sa chute. Il est encore au milieu de ses frères. Il n'a pas fui. Il est au milieu des autres. Peut-être que ça s'est ébruité, hein. Vous savez, peut-être que... Voilà, hein, ils le savent aussi, mais il est là. Il est au milieu de ses frères. Il est prêt à continuer à servir le Seigneur avec une attitude complètement différente. C'est plus la superbe, l'orgueil, l'assurance charnelle, la prétention, tout ça, c'est anéanti. Anéanti. Pierre est là, petit parmi ses frères. Alors Pierre, bien sûr, il a toujours son tempérament, hein. C'est Pierre, hein. Mais voilà. Il a ravalé tout son orgueil et est devenu plus petit. Toute cette assurance orgueilleuse qui est dangereuse. On a un exemple de repentance dans l'Ancien Testament que vous connaissez bien, c'est celle de David, bien sûr, avec cette histoire avec Bathsheba et l'adultère qu'il a commis avec son soldat, enfin, avec la femme de son soldat Uri. Et c'est lorsque Nathan dévoile son péché. Et là, David qui dit « J'ai péché contre l'Éternel ». Mais en fait, on voit vraiment ce qui se passe dans son cœur quand on lit le psaume 51. Et là, vous voyez ce qui est en lui. Psaume 51, versets 3 à 6. Il dit, « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité. Purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions. Et mon péché est constamment devant moi. » J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Et puis versets 14 et 15. Il dit, rends-moi la joie de ton salut. Qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Et les pécheurs reviendront à toi. Et là, on voit une vraie repentance. Et ce qui est touchant, c'est que le roi David ne démissionne pas. Il ne démissionne pas, mais il implore plutôt le pardon de Dieu afin de reprendre le chemin qu'il avait autrefois et continuer à être un serviteur, voilà, dans les voies de Dieu qui fait ce qu'il faut. Et de la même manière, l'apôtre Pierre, il n'a pas abandonné la course après son reniement. Au contraire, il s'est repenti, il a repris sa place dans le groupe et puis on continue à voir Pierre dans les actes et après même... Par ses épîtres. Le fils prodigue, il est rentré en lui-même. Il a dit, je me lèverai, j'irai vers mon père. Je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel, contre toi. Je suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et la tristesse, selon Dieu, elle produit une repentance, une vraie repentance. Une vraie repentance, c'est le mot grec, c'est métanoéo. En fait, c'est changer de pensée. C'est un changement de pensée. Par exemple, j'étais parti dans une attitude de cœur, dans certains péchés, dans de l'infidélité, dans de la désobéissance, et je fais un 180 degrés, demi-tour, complet. Et je me tourne vers Dieu. Seigneur, je veux plus ça. Vraiment, je veux marcher avec toi. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Ça, c'est la repentance. Je change de pensée. Le fils prodigue, il s'est dit, je sais ce que je vais faire. Voilà. Je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Donc il y a une confession claire de son péché et il y a un changement d'attitude. Il dit même, je suis plus digne d'être appelé ton fils. Je suis plus digne. Qu'est-ce qu'a fait le père? Est-ce qu'il l'a trouvé? Est-ce qu'il l'a traité comme un ouvrier? Ben non. Il l'a réintroduit dans la famille comme son fils. Hein. Il a mis l'anneau au doigt, les chaussures aux pieds, nouvelle robe, le veau gras. Il l'a réintroduit. L'apôtre Pierre, il a aussi confessé son péché d'une certaine manière. Regardez Jean 21, et on va lire les versets 15 à 17. Après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu ?» Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes brebis. » Et Pierre avait besoin de reconnaître qu'il avait été prétentieux de dire que lui, il aimerait vraiment le Seigneur, beaucoup plus même que les autres, hein, plus que tout. « Quand il me faudrait mourir pour toi, jamais je ne te renierai pas. » Non, je t'aime Seigneur. Et là, Jésus se retrouve avec Pierre, donc, après la résurrection, et il lui dit, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Et pour comprendre le passage, il faut aller regarder dans le grec. Parce que c'est intéressant de voir que les termes ne sont pas les mêmes. En grec, il y a plusieurs mots pour dire « amour ». En anglais, il y a plus de mots qu'en français. En français, on est pauvre. Je t'aime beaucoup. Je t'aime vraiment. Et je ne peux pas dire je t'adore parce que j'adore Dieu. Hein? Donc voilà. Après, il faut rajouter quelque chose. Mais on n'a pas beaucoup de mots pour dire je t'aime. Mais en grec, il y a trois mots. Au moins, je ne sais pas, peut-être il y en a plus, mais il y en a trois. Le premier, c'est l'amour agapao. C'est l'amour sacrificiel. C'est l'amour qui se donne complètement. C'est l'amour d'une mère pour ses enfants, une mère qui s'offre. Elle ne regarde pas la dépense. L'amour agapao. Ensuite, l'amour philéo. C'est l'amour frère, affection, voilà, amitié. C'est l'amour philéo. Et puis en plus, le troisième, c'est l'amour eros, ou c'est l'amour physique, l'amour charnel, hein, de la chair. Alors Jésus, tout d'abord, il emploie le terme le plus fort, agapao. Il lui dit, Pierre, m'aimes-tu ? En fait, c'est comme s'il lui dit, Pierre, m'aimes-tu jusqu'à t'offrir en sacrifice pour moi ? Vraiment, m'aimes-tu ? Pierre lui répond, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Mais en fait, il lui dit, Seigneur, tu sais que je te filéo. C'est-à-dire, je t'aime amitié. Je t'aime pas, agapao. En fait, c'est une confession. Confesse, Seigneur. Tu dis, est-ce que je t'aime comme ça? Oui, Seigneur, je t'aime comme ça. Et ça devait être lourd, hein. Ça devait être difficile pour lui, hein. Alors, il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Est-ce que tu m'agapao? Et Pierre, de baisser la tête, je l'imagine, oui, Seigneur, tu sais que je te filéo. Je t'aime. Et là, Jésus répète une dernière fois, et ça va attrister Pierre. Il va lui dire pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? Et là, Jésus descend de niveau à son niveau. Il lui dit, Pierre, est-ce que tu me filéo ? Et là, Pierre est attristé. Il prend un coup. Il prend un coup parce que ça révèle sa faiblesse. Alors, il lui dit, oui, Seigneur. Tu sais que je te filéo. Tu sais toutes choses, Seigneur. Et même, c'est intéressant dans le tu sais, il y a le verbe connaître là, et signifie connaître en profondeur, connaître dans l'âme. Et en fait, il dit, Seigneur, tu me perces entièrement et tu sais exactement ce qui est en moi. Je te filéo, Seigneur. J'aimerais plus, mais je te filéo. Et donc, c'est une confession de la faiblesse de son amour, de sa faille. Mais ce qui est merveilleux, c'est que quand on se repent de son péché, qu'on confesse sa faiblesse, eh ben Dieu nous manifeste d'autant plus d'amour, d'autant plus. Il nous restaure et il continue à nous employer. C'est beau de voir que Jésus, par trois fois, il lui dit, « Paix mes agneaux, paix mes brebis, paix mes brebis. » Fais ce que je t'ai appelé à faire. Je t'ai appelé, je t'ai choisi. Fais ce que je te demande de faire. Et la tristesse, selon Dieu, elle produit une repentance. Et la repentance produit une restauration. Une restauration. Dieu restaure celui qui se repent sincèrement de ses péchés. Alors bien sûr, parfois, il y a des conséquences. Ça arrive parfois qu'il y ait une décision qui entraîne des conséquences et après, on ne peut pas totalement restaurer la situation. C'est possible. Mais autant que c'est possible, eh bien Dieu nous restaure quand on se repent sincèrement. Il veut continuer à se servir de nous pour sa gloire. Ce qui m'amène au dernier point, la tristesse selon Dieu entraîne une condamnation de soi-même, mais avec l'espérance de la restauration. Tandis que la tristesse du monde entraîne une condamnation de soi-même avec aucune espérance. Pas d'espérance. Quand le fils prodigue dit « Je me lèverai, j'irai vers mon père, je dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel, contre toi. » En fait, il a une espérance. Espérance dans la miséricorde de son père. Lorsque David adresse sa prière à Dieu, il a l'espérance de la miséricorde du Seigneur encore. Tandis que Judas, lui, il n'a plus aucune espérance. Il se condamne et là, c'est le vide complet, c'est le désespoir. Parce que la tristesse du monde n'engendre pas d'espérance. C'est une voie sans issue. Une voie sans issue. Au contraire, elle nous plonge dans le tréfonds de notre cœur qui est mauvais. Et c'est là que y a toutes sortes de sentiments qui peuvent nous assaillir, hein, une fois qu'on est dans cette tristesse du monde, dans cette voie sans issue. Il y a la solitude. Je suis seul. On s'est mis aussi dans la solitude, probablement, mais je suis seul. Personne n'est comme moi. Personne ne pense réellement à moi. Personne ne m'aime. Il y a de la pitié de soi aussi. De toute façon, je ne suis pas aimable. Il n'y a rien de bon en moi. Je ne changerai jamais. Je suis mal dans ma peau. Je suis incapable. Je suis un cas. Et puis, on va s'enfoncer soi-même. Plein de pensées dévalorisantes peuvent nous assaillir pour celui qui est triste selon le monde. Alors, bien sûr, tout ça, c'est faux. Tout ça, c'est du mensonge. Et c'est même, je dirais, un péché de le penser quand on est fils et fille de Dieu. C'est un péché. On a été accepté, on est adopté, on lui appartient pour l'éternité, on est promu à une vie éternelle. Souvenez-vous de la corde. Dieu nous a réservé l'héritage pour des millions et des millions et des millions et des millions d'années. Comment peut-on être dans cette situation-là, accablé et à se regarder soi-même et à se dire « je suis rien ». C'est vrai qu'on est, on n'est pas grand-chose, mais on est des enfants de Dieu. Et c'est précieux, on lui appartient pour l'éternité. Après, il y a aussi l'orgueil parfois. Parfois, c'est l'amour propre qui est blessé parce qu'on n'a pas fait notre volonté. Et je pensais à un exemple dans l'Ancien Testament de quelqu'un qui a dû ressentir une tristesse mais qui l'a mené au mauvais endroit, c'est Achitophel. Vous vous souvenez ? Achitophel, conseiller du roi, qui, on n'a pas écouté son conseil. C'était la première fois. Ben, il n'a pas supporté. Il est allé se pendre. Pas supporté, à cause de l'orgueil. Parfois, c'est notre péché qui est démasqué et on ne supporte pas que ce soit mis en lumière. Et plutôt que de se repentir, de changer de direction, eh bien, on peut sombrer dans le désespoir. Et puis, la mort, ça suit. Quand vous regardez dans les actualités, les faits divers, les hommes qui se suicident dans leurs cellules, il y a des gens, ils sont complètement désespérés, pas d'espérance. Voilà. Et ils ne supportent pas. Ils ne supportent pas le poids de la culpabilité, la honte. Mais il y a un autre chemin. Il y a un autre chemin. Merci Seigneur. Jésus est venu mourir sur la croix pour pardonner nos péchés, pour nous relever, pour nous restaurer et pour nous accorder de pouvoir recommencer et recommencer avec lui. C'est-à-dire faire mieux et réussir avec lui. Ça, c'est ce que Jésus a voulu. Alors oui, c'est vrai, nous sommes des pécheurs invétérés, mais il y a quelque chose qui différencie Pierre de Judas, c'est l'amour. L'amour pour Jésus-Christ, l'amour pour Dieu. Bien sûr, Pierre, il a réalisé la faiblesse de son amour, mais il l'aime. Il l'aime quand même. Il l'aime vraiment, et c'est ça qui l'a poussé vers Jésus. Tandis que Judas était focalisé sur lui et s'aimait plus lui-même, finalement, qu'il n'aimait le Seigneur. Pierre aimait son Seigneur, il l'aimait vraiment. Et finalement, il semble que Pierre est allé jusqu'au sacrifice pour Jésus, puisqu'on pense que Pierre a été crucifié apparemment et qu'il en est mort en martyr. Donc ce qu'il n'a pas pu faire avant, après avec Jésus, il l'a fait. Il est allé jusqu'au bout et il a une fin glorieuse pour Jésus-Christ. Alors il faut se poser la question, si notre péché est dévoilé, quel type de tristesse se manifeste en nous? Une tristesse qui mène à la repentance, à un changement de direction, ou bien c'est une tristesse qui mène plutôt vers la mort, vers la séparation, vers l'isolement, vers la pitié de soi, vers l'orgueil, vers l'endurcissement, vers la solitude. Alors je termine ici, on va revenir avec 2 Corinthiens. Alors les Corinthiens ont reçu... Ils ont reçu cette lettre qui les reprenait sévèrement. Qu'est-ce qu'elle a produit chez eux? Une saine et salutaire tristesse selon Dieu. Regardez 2 Corinthiens 7, verset 11. 2 Corinthiens 7, verset 11. Et voici cette même tristesse selon Dieu. Quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification? Quelle indignation? Quelle crainte? Quel désir ardent? Quel zèle? Quelle punition? Vous avez montré à tous égards que vous étiez pur dans cette affaire. Et Paul donc s'est inquiété de l'effet de sa lettre, mais les Corinthiens, il dit, ont montré à tous égards qu'ils étaient purs dans cette affaire. Et quand on met le doigt sur le péché de quelqu'un, eh bien on voit vraiment, réellement, ce qu'il y a dans le cœur de la personne. Que produit la mise en lumière de ma faillite? Paul avait peur. Le cœur, il sait, le cœur de l'homme est tortueux, il est méchant, alors il avait peur. Il s'est dit, oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Mais les frères de Corinthe ont le même amour pour Dieu que Paul avait pour Dieu. Et ils aimaient sincèrement le Seigneur. Alors, eh bien, une fois qu'ils ont pris conscience de leur péché, immédiatement, ils se sont repentis sincèrement. Alors, il dit, quel empressement! On peut continuer peut-être la phrase et dire, quel empressement à venir au pied de la croix pour demander pardon. Waouh! Merci Seigneur! Quelle justification trouvée en Christ par une repentance sincère. Merci! Quelle indignation d'eux-mêmes d'avoir pu faire ou dire des choses pareilles. Quelle crainte manifestée maintenant en eux qui veulent faire toute la volonté de Dieu. Quel désir ardent de bien faire, d'être obéissant, de revenir complètement au Seigneur. Quel zèle maintenant pour le Seigneur. Quelle punition salutaire que cette lettre qui vous a fait du bien et non du mal. Vous avez montré à tous égards que vous étiez pur dans cette affaire. Et la mise en lumière, parfois de notre péché, est révélatrice de ce qu'il y a dans notre cœur. Si on aime Jésus, alors, eh bien, on va se repentir, on va relever la tête et on va espérer de nouveau en lui. Et continuer, on avance, allez, le Seigneur encore pour nous de bonnes choses. La réaction des Corinthiens montrait ce qui était en eux. Ils n'ont pas nié, vous savez, parfois on nie. Non, c'est pas vrai. On essaie d'esquiver. Ils n'ont pas nié, c'est vrai. Ils n'ont pas fui. Ils ne se sont pas isolés, ils ont pleuré, ils se sont repentis, ils étaient purs. Voilà, qu'on puisse être dans l'espérance et qu'on puisse avoir cette tristesse selon Dieu quand quelque chose ne va pas dans notre vie. Voilà, on court vers le Seigneur dit « Choisis la vie, choisis la vie ». Un autre verset pour terminer, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Il y a un avenir et de l'espérance avec le Seigneur.